Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà donc pour cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec vous, maître Michael Corbier du barreau de Montpellier. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de Franz Diegelmann. Une question d'ailleurs intéressante, que vous demande à la veille du procès d'assises Franz Diegelmann? Est-ce qu'il vous demande de l'enfoncer elle?
Non, pas particulièrement de l'enfoncer elle, de simplement rendre compte de ce qui est la réalité de sa participation à lui dans ce dossier, ce qui a été développé au long de l'instruction, c'est-à-dire reconnaître qu'il est le bras armé, évidemment, dans l'assassinat de Paul Kinsler, mais que c'est elle qui est la commanditaire.
Il n'est plus du tout amoureux à ce moment-là. Il reste plus rien cette passion qu'il avait pour elle.
Non, mais je dirais que peu de temps avant le procès, il avait encore des sentiments amoureux pour Diane Lusser. Ça faisait partie d'ailleurs de nos échanges. Chaque fois que j'allais lui rendre visite à la maison d'arrêt, on parlait aussi de cette relation avec Diane. Et il a mis des mois et des mois, alors qu'il était détenu, à se détacher effectivement complètement de Diane.
C'est un verdict étonnant, maître, parce qu'il est assez rare que le complice, et Diane Missler, était jugée, et elle a été condamnée comme complice d'un assassinat, soit plus condamnée que l'auteur des faits lui-même. Alors, à votre sens, qu'est-ce qui a fini par convaincre les jurés que son poids dans le crime était plus lourd que celui qui avait tué?
C'est un ensemble de choses, évidemment, un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices. Tout d'abord, il y a la dissection qui se fait à l'audience de cette relation amoureuse entre Diane Missler et Franz Diegelmann. Le déséquilibre amoureux, le fait que manifestement Franz Diegelmann était inféodé à cette relation amoureuse qui était totalement déséquilibrée. Il y a ensuite toutes les contradictions de Diane. Il y a son attitude durant l'instruction. Elle est placée sur écoute, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On s'aperçoit qu'elle continue à mener sa vie amoureuse de façon aussi libérée qu'auparavant. Il y a les propos qu'elle tient au téléphone sur la mort même de son mari dans les circonstances affreuses que vous avez évoquées tout à l'heure, et qui n'entraîne pas chez elle une émotion particulière. Elle en parle avec beaucoup de détachement, elle est d'humeur badine. Le lendemain des faits, par exemple, elle va faire ses courses au supermarché avec l'épouse de Franz Diegelmann, puisqu'il est toujours marié à cette époque-là, sachant que c'est lui qui est le responsable de la mort de son mari. Il est d'ailleurs en garde à vue alors qu'elle fait ses courses avec l'épouse de Franz Diegelmann. Et l'épouse de Franz Diegelmann, qui sera entendue, va même dire aux enquêteurs qu'elle lui dit à ce moment-là qu'elle va se charger de lui trouver un avocat, parce qu'il faut qu'il soit bien défendu. Voilà quelques exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, mais il y a des dizaines et des dizaines de petites choses qui vont finir par faire admettre à la cour d'assises que la responsabilité morale première incombe à Diane Missler et que sans cette responsabilité, là, il n'y aurait pas eu le passage à l'acte de Franz Diegelmann.
Meurtrière intellectuelle, comme dit l'avocat général, c'est une expression intéressante.
Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a conceptualisé et on se rend compte quand on analyse l'ensemble de la procédure qu'elle a agi avec une malice particulière dès le début de sa relation avec Franz Diegelmann. Dans les premiers temps, c'est une relation amicale, on boit le café ensemble, et puis un beau jour, elle arrive à l'occasion de ce rendez-vous pour partager un café avec une Minerve. Franz, bien sûr, s'inquiète de son état, lui demande ce qui a pu lui arriver, puis elle lui dit qu'elle est tombée dans les escaliers, mais elle reste assez mystérieuse. Quelques semaines après, elle boite, Franz lui demande ce qui lui est arrivé, et puis à nouveau, elle est tombée. Il se rend bien compte, donc, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais elle prend bien soin de ne pas lui en dire trop et de finalement le laisser mordre à l'hameçon. Et puis une fois qu'elle est sûre de la dépendance affective de Franz Diegelmann, les choses vont s'accélérer jusqu'à l'assassinat de son mari.
J'entends bien ce que vous me dites, maître Corbier, mais il n'y a aucune preuve que ça s'est passé comme ça. Le coup de la Minerve, c'est parce que Franz Diegelmann le raconte, mais personne d'autre ne se souvient de l'avoir vu ce jour-là au bistrot avec une Minerve pleurnichant ou laissant entendre que son mari avait pu la pousser.
Oui, mais c'est un élément qui ne compte pas plus que les autres. Ce qui compte, c'est l'addition de ces éléments. Franz Gueulemann sur le poison qu'il va chercher entre Toulouse et Montauban chez Marie-Olivienne, qui est la meilleure amie de Jan Wissler. On va faire des vérifications. Effectivement, Franz se trouvait ce week-end-là chez Marie-Olivienne. Alors, on n'a pas la preuve formelle, bien sûr, qu'il est allé prendre possession de ce médicament. Parmi les différents scénarios qui ont été évoqués, Franz Gueulemann dit qu'il a été question, à la demande de Diane, d'assassiner Paul en empoisonnant un traitement que celui-ci prenait par piqûre, me semble-t-il, contre la chute des cheveux. Alors ça, bien sûr, c'est un élément qui paraît comme ça anodin, mais on va vérifier et on va se rendre compte qu'effectivement, à l'époque, M. Missler prenait un traitement contre la chute des cheveux, que c'était un traitement par piqûre. Donc c'est tout un ensemble de petites choses qui, additionnées les unes aux autres, font que la responsabilité de Diane paraît incontournable aux yeux de tous.
Est-ce que ce qui ne joue pas aussi, c'est l'attitude de votre client? On le voit bien d'ailleurs dès la première garde à vue, c'est un type qui assume. Il se cache pas derrière son petit doigt, il cherche pas à nier les faits, il reconnaît sa part du crime sans problème.
Absolument. Dès le départ, alors une évolution dans sa position, dans sa garde à vue, dans les premiers interrogatoires, il couvre Diane Missler. Et il dit qu'il a agi uniquement par jalousie. Et puis après, bon, il va raconter la réalité. Alors ce qui fait qu'il change de position, qu'il évolue dans ses déclarations, c'est l'interrogatoire du mois d'octobre auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Alors cet interrogatoire, moi je prends connaissance quelques semaines avant de la position de Diane Missler et j'en fais part à Franz Gueulemann qui...
Donc vous l'avez préparé avant qu'il ne soit interrogé par la juge d'instruction. Il sait déjà qu'elle avait d'autres amants, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle l'a trahi.
Ah oui, oui. Bien sûr. Et je lui dis surtout qu'elle nie la relation amoureuse, qu'elle dit simplement que c'était une affaire de sexe entre eux, qu'il n'y avait pas de sentiment amoureux. Alors la France est complètement dépitée, mais pour autant, devant le juge d'instruction, il va rester campé sur ses positions. Et puis vous l'avez dit, il va écrire quelques jours après, deux ou trois jours après, il écrit au juge et il m'écrit à moi. Et son courrier commence ainsi, je crois, maître, je ne vais pas vous surprendre, j'ai assassiné Paul à la demande de Diane.
Alors l'une de vos victoires, pardon de le dire comme ça, mais c'est que vous êtes parvenu tout de même à effacer un point essentiel de ce dossier, c'est qu'il lui a administré à Paul Missler 20 coups de couteau. Je raconte des affaires criminelles depuis des années et des années. Sont en général les psychopathes qui, comme ça, se lardent de coups de couteau, 20 coups de couteau. Chacun peut se représenter ce que c'est que de donner 20 coups de couteau à quelqu'un. Et alors, à la fin, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. C'est assez rare qu'un type qui a donné 20 coups de couteau prenne 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'on oublie ça?
On a considéré, semble-t-il, que son libre arbitre avait été atténué par cette relation affective, par cette dépendance affective. On a des tas d'éléments qui permettent de dire que, même si elle ne lui disait pas les choses tout à fait clairement et qu'elle utilisait volontiers les périphrases, elle invitait régulièrement Franz à agir. Elle lui disait « tu m'aimes, mais tu n'agis pas, tu n'es pas un homme ». Si tu m'aimes, fais quelque chose pour que ce cauchemar cesse. Franz n'est pas quelqu'un de d'agressif, de violent, mais ce jour-là, il s'arme à la fois de ce harpon et de ce couteau, mais aussi pour s'armer de courage, parce que il sait qu'il va devoir montrer à Diane à quel point il l'aime et que ça va passer par l'agression de Paul.
Une autre question, la question du mobile, maître Corbier. Au final, pourquoi est-ce qu'elle... Il est si simple de divorcer en prenant un bon avocat, ça va vite. Puisqu'elle n'a pas de bénéfices financiers dans cette affaire, pourquoi ne divorce-t-elle pas le plus simplement du monde pour vivre une autre vie avec d'autres hommes?
Alors, je pense qu'elle a un bénéfice financier. Je pense qu'elle a plus à gagner en faisant assassiner son mari qu'en acceptant une procédure de divorce dans laquelle...
Elle est en faute.
Elle n'avait pas le beau rôle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on va découvrir chez le notaire de Paul Missler, dans le coffre du notaire, un ensemble de documents que Paul avait mis à l'abri, et notamment un registre sur lequel il consignait toutes les absences du domicile conjugal de Diane. Et il y en a dès le mois d'août 1998, alors qu'il se marie en juillet, ses absences à l'occasion desquelles elle va rejoindre ses amants. Il a constitué un dossier, il y a des plaintes, il y a des constats d'huissier de son absence au domicile. Il a un dossier qui montre qu'elle a délaissé le domicile conjugal, qu'elle lui a laissé leur enfant sans s'en soucier. Elle sait que dans un divorce, elle aura beaucoup à perdre, alors que en faisant assassiner son mari, il y a quand même des bénéfices. Il y a une assurance d'essai sur la tête de Diane d'un montant de 145 000 euros qui lui revient en cas de disparition de Paul Mussière. Et puis, il y a une assurance d'essai de 330 000 euros sur la tête de leur fils qui revient donc à leur fils en cas de décès de son père. Et puis, il y a les biens immobiliers qui, eux, tomberont dans la succession, je dirais, ordinaire et qui seront partagés. Mais il y a, sur le plan matériel stricto sensu, plus à gagner. Dans l'hypothèse d'une disparition tragique, accidentelle,
que dans un divorce.
De Paul Mussière, que par un divorce.
Je vous remercie infiniment, Maître Corbier du barreau de Montpellier, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.